Il est 13h à Bangui, la grande édition de la mi-journée avec Astrid de Bonheur Kolingi. Astrid, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Niabode, bienvenue à tous dans cette édition. Le pape François est décédé ce lundi de Pâques au Vatican à l'âge de 88 ans. Son portrait est à suivre au début de ce journal. Un enfant de 16 ans est mort noyé hier dans un lac à la carrière de Boirab. Il s'y était rendu avec son oncle maternel pour une partie de pêche. Le comité international de la Croix-Rouge CICR a procédé hier à la réunification d'un enfant de 16 ans avec sa famille biologique après 2 ans de séparation. Sport, le championnat d'Afrique de duathlon s'est terminé hier à Bangui avec la participation de 8 pays africains.
Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques, un jour férié dans plusieurs pays du monde. Alors que les chrétiens commémorent la résurrection de Jésus-Christ après la Semaine Sainte, le pape François de l'Église catholique nous quitte.
Il est décédé ce matin à l'âge de 88 ans dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta. Qui était-il? Voici son portrait avec Chris Roy Jordan Padengbe.
De son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, le pape François a officiellement pris ses fonctions le 13 mars 2013. De nationalité argentine, il est le 266e souverain pontife de l'Église catholique. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Son père Mario José Bergoglio était un immigré italien, tandis que sa mère Regina Mario Sivori était née en Argentine. Depuis son élection, le pape François a effectué 5 voyages en Afrique au cours desquels il a visité 10 pays, dont la République centrafricaine. Lors de ses visites, il a abordé plusieurs thèmes majeurs, notamment le dialogue interreligieux, l'accueil des migrants, la paix et la réconciliation. Le souverain pontife a également dénoncé la corruption et le colonialisme économique, appelant à une plus grande justice sociale et au respect de la dignité humaine. Le souverain pontife a foulé le sol de la capitale centrafricaine en 2015 à l'occasion de son tout premier voyage en Afrique. Ceci 2 ans après le coup d'État mené par la coalition Silica contre l'ancien président François Bozizé. Le pape François s'est même rendu au PK5, quartier majoritairement musulman de Bangui, où s'étaient réfugiés de nombreux Centrafricains. Ce déplacement historique a créé un nouvel espoir à un pays alors plongé dans de violences, ce qui a contribué à inciter la quête de la paix et la réconciliation nationale. 1 mois après sa sortie de l'hôpital pour une pneumonie infectieuse, le pape François est mort à l'âge de 88 ans, a annoncé ce matin le Saint-Siège. Il est apparu hier en public pour la dernière fois lors de la célébration de Pâques à la place Saint-Pierre au Vatican devant un bain de foule.
Merci à vous Chris Roy Jordan Badengbe.
Astrid, justement à propos de ce décès, certains chrétiens catholiques de Bangui s'expriment.
Ami Tidjani les a rencontrés.
En fait, ça nous a vraiment attristés. Il est venu ici à Bangui en 2015 et il a parcouru plus que même la majorité du pays. Et il est allé jusqu'à même vers kilomètre 5. Il a assisté les musulmans, les chrétiens, il nous a réconciliés. Et voilà, il est parti. Nous sommes vraiment attristés.
Je suis vraiment triste par rapport à cette nouvelle. En tant que chrétien catholique, j'ai vraiment de la peine à surmonter ça. Parce que à l'époque, pape François était venu à Bangui et après son retour, il y a de la paix et tout se passe vraiment très bien après son retour.
C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition du souverain pontife. En tant que chef de l'Église déjà, c'est une grande perte pour l'Église catholique universelle. Et en tant qu'être humain, on ne peut que s'affliger de ce qui est arrivé.
Je suis même ému de vous entendre dire ça, puisque ça c'est un choc, quoi, je peux dire. Bah, chrétien catholique, je sais que ça ne va pas être tellement facile, quoi, puisque lui, il est comme un père pour les chrétiens catholiques. Donc, je vous dis sincèrement courage à vous, quoi.
Un enfant de 16 ans s'est noyé hier dans un lac du quartier Boirab, dans le 4e arrondissement de Bangui.
Aristide Koumandi, âgé de 16 ans, habitait au camp Isamo. Hier, il s'est rendu à la carrière de Boirab avec son oncle maternel pour aller pêcher. Le drame s'est produit vers 14h. Son corps a été retrouvé ce matin aux alentours de 8h. Gédéon Koumandi, le père de la victime, raconte ce qui s'est passé au micro de Sabrina Larissa Nailo.
L'acte qui s'est produit dépasse notre entendement. L'enfant est chez sa tante paternelle au lycée technique au camp Isamo. Il y a de cela une semaine, il est parti en congé chez une autre tante paternelle au Berkay. De Berkay, il est revenu à Gobongo. Le dimanche, il est revenu à la carrière à Boirab à 14h. Arrivé à 17h, on m'a appelé pour me dire que l'enfant est mort par noyade. Ce matin, on a découvert son corps. Il a 16 ans et il n'est jamais arrivé dans ce quartier. Il est venu pour la fête l'acte de baptême chez mon beau-père. Selon les informations, c'est mon beau-frère qui l'a amené pêcher dans ce lac. Les deux étaient en train de noyer, mais des voisins sont venus sauver mon beau-frère. Mon enfant est mort. Je demande à tous ceux qui sont venus m'assister de me donner un coup de main afin que je puisse enterrer mon enfant. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je remets tout entre les mains de Dieu.
Un an après le naufrage de la baleinière à Poco sur la rivière Ubangi, la sécurité des passagers reste au cœur des préoccupations.
Oui, Verdiane, l'accident survenu le 19 avril 2024 avait fait près d'une centaine de morts. Il a révélé de graves lacunes dans la réglementation du transport fluvial. Aujourd'hui, les mesures prises pour protéger les passagers sont-elles réellement appliquées ? Reportage de Emmanuel Saint-Bolifis.
Il est 12 heures et nous sommes au port de Villa Colongo, dans le 6e arrondissement de Bangui. Ici, près de 10 baleinières sont stationnées, sans passagers ni bagages. Même si visiblement on ne voit pas le service de contrôle du ministère de Transport, certains propriétaires de baleinières témoignent que les mesures sont observées. Isaac Isidore Kobanga, propriétaire de baleinière Dieu de Miracle.
Notre sécurité est bien assurée. Présentement, chaque six mois, les agents du ministère de Transport descendent sur le terrain pour vérifier l'état des baleinières, les baleines qui sont en bon état, ils valident pour voyager. Ceux qui ne sont pas en bon état, ils arrêtent leur voyage. Ça fait qu'on ne peut pas écouter encore l'histoire du naufrage.
Le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la sécurité sur la rivière Ubangi, entre autres le contrôle strict sur l'état des embarcations, le nombre de passagers autorisés et les équipements pour faciliter la navigation. Si ces mesures sont suivies, la sécurité des passagers n'est pas totalement garantie, selon Timothée Mamelewa, commandant de la baleinière Bangui Ifondo.
Effectivement, notre sécurité est assurée, je ne sais pas 100%. Nous avons premièrement le sauvetage qui est les chambres à air qu'on avait pompées pour le sauvetage. Nous avons de bon sable, nous avons les secteurs pour, en cas de quoi, il y a un naufrage, on pourrait secourir avec ça. Difficulté parce que nos frères de RDC, s'ils nous voient en route comme ça, en navigation, ils nous arrêtent, on le paie, si on ne le paie pas, ils nous maltraitent quoi.
Nous quittons Villa Colongo pour le port Sao dans le 7e arrondissement de Bangui. Ici, le constat est identique à celui de Villa Colongo. Des baleinières sont garées sans passagers ni bagages. François Damandi, ingénieur de construction des baleinières et son équipe, répare une baleinière qui vient d'arriver.
Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu encore d'accident, même en amont, tout comme en aval. Les baleinières en réparation, vous voyez, en amont ici, il y a trop de chutes. Et à chaque fois que les baleinières voyagent, quand ils reviennent, il faudrait qu'il y ait de petites réparations. Donc, parce que ça coigne de cailloux et ainsi de suite, raison pour laquelle vous avez vu, il y a cette baleinière, on l'a tournée pour la réparer.
Selon le directeur général de transport de surface que nous avons contacté, le ministère de transport a les yeux sur tout ce qui se passe au bord de la rivière Ubangi, puisqu'il a choisi des responsables de quai pour veiller sur des mesures préventives avant l'embarquement.
Et puis Astrid, le comité international de la Croix-Rouge, CICR, a remis hier un enfant de 16 ans à sa famille biologique dans le quartier Boying, situé dans le 9e arrondissement de Bangui.
Il s'agit de Mazayel, séparé de ses parents à la suite des attaques du groupe armé 3R dans les villages de Nzoro, à 55 km de Bokaranga, dans l'Ouampende. Les détails avec Sabrina Larissa Nailo.
Merci. Âgé de 16 ans, Mazayel a été confié à ses oncles maternels Andim par sa mère afin de poursuivre ses études après le décès de son père. Mais à la suite de l'attaque du village Nzoro par les éléments du groupe armé 3R, elle s'est retrouvée séparée de ses oncles. Recueillie ensuite par un couple de policiers à Bokaranga, elle a passé 2 mois avant d'être finalement réunie avec sa mère à Bangui grâce à l'intervention de l'équipe locale du CICR. Mazayel revient sur son parcours.
J'ai passé 2 jours dans le village lorsque les rebelles ont attaqué la nuit et c'était le jour que nous avons fui. Ils commençaient à brûler les maisons. Nous avons fui dans la brousse et après, nous nous sommes rencontrés avec certaines personnes qui ont fui également. Ce sont ces personnes qui nous ont conduits à Ndim où je fréquente. C'est ici à Ndim que les Faka m'ont mis sur une moto à destination de Bokaranga pour revenir à Bangui.
Bernadette Omi est émue de voir sa fille après 2 ans de séparation.
Je n'avais plus la paix du cœur et je pouvais rester 2 jours sans manger. Ce sont mes connaissances du quartier qui m'ont informé que mon enfant Meza, porté disparu, est retrouvé et logé chez leurs parents à Bokaranga. C'est en indiquant sa position que j'ai été un peu soulagée.
Le CICR qui a facilité la réunification familiale prévoit d'accompagner l'enfant pendant 2 mois en lui fournissant une aide composée de vivres et de non-vivres. We'll be right back.
Actualité internationale en RDC, après l'annonce du retour de Joseph Kabila à Goma, Kinshasa a pris une série de mesures contre lui et ses proches.
Deux jours après l'annonce de l'ex-président Joseph Kabila à Goma, une ville sous contrôle des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda, Kinshasa a engagé des poursuites judiciaires contre l'ancien président et a saisi ses biens. Le gouvernement l'accuse de haute accusation. Deux jours après l'annonce de l'ex-président Joseph Kabila à Goma, pour son implication, le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle M23. Toutes les activités de son parti, le PPRD, sont également suspendues. Pour Ferdinand Kambere, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, ces mesures sont arbitraires et frisent la dictature.
Au Ghana, Astrid, un rapport d'Amnesty révèle les souffrances des personnes accusées de sorcellerie.
Selon ce rapport, les accusations de sorcellerie conduisent des centaines de personnes à l'exil, voire à la mort. Plus de 500 personnes exilées vivent dans des camps vétustes. Bien qu'il n'existe pas de statistiques officielles, le rapport mentionne 7 décès dus à des lynchages. Amnesty affirme que l'État ghanéen a échoué à garantir les droits fondamentaux de ces personnes.
Et c'est la page sport de cette édition. Astrid, la clôture du championnat d'Afrique de duathlon de Bangui s'est déroulée hier.
Oui, Verdiane, plusieurs athlètes venus de 8 pays africains, dont la Côte d'Ivoire et le Niger, ont participé à cette compétition. Cet événement sportif de 2 jours a permis aux participants de renforcer leur position en vue des Jeux Olympiques de 2028 qui se tiendront au Texas, aux États-Unis. On en parle avec vous, Théoneste Pounika.
Après avoir été vice-champion d'Afrique en 2023 au Niger, le champion centrafricain s'est distingué en remportant cette fois-ci lors de la catégorie senior masculine en obtenant le titre de champion d'Afrique. Gustave Dendo a déjà établi des objectifs pour les prochaines compétitions internationales.
L'autre fois à Niamey, j'étais le vice-champion d'Afrique. Aujourd'hui, je suis venu à le champion d'Afrique. Ça me fait beaucoup de fierté. Je me suis performé, ça je reconnais, mais il y a aussi des internationaux qui sont venus, qui sont aussi performants. C'est toujours dans les batailles que j'avais l'objectif et de la détermination. Quand je suis chez moi, je voulais remporter ces victoires à toute force.
Pour le président de la Fédération centrafricaine de triathlon, Brackler Sandy, le bilan de ce tournoi est positif pour les athlètes centrafricains.
C'est un bilan positif parce que ton à la barre performance.
C'est un bilan positif puisqu'il y a amélioration dans les performances des athlètes. Puis 2023, il y a des compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques qui sont organisées. Il y a des qualifications directes et des qualifications par classement. Donc, lorsque tu participes au championnat d'Afrique en remportant des médailles d'or, tu pourras te qualifier aux Jeux Olympiques.
Bani, donc on a chance, tu t'es me qualifier directement parce qu'après ça a des contenus qui tenaient me qualifier directement dans les Jeux Olympiques.
C'est la 4e fois que le championnat d'Afrique de duathlon a eu lieu. Cependant, c'est une première pour la République centrafricaine d'avoir accueilli cette compétition africaine.
Football, fin hier à Bangui des matchs de la 16e journée de la 1ère et 2e division de la Ligue de Bangui.
Tout puissant, USCAD a battu l'AS Mbangré 3-1 et le FC SOS a triomphé face à l'UFC 5 sur le score de 1-0.
À l'international, tous les matchs de la Série A prévus aujourd'hui sont rapporté suite au décès du pape François.
Nous restons en Europe pour parler de l'international centrafricain Godwin Koyalipou qui a encore brillé hier avec le RC Lens lors de la 30e journée de Ligue 1 contre Brest. Koyalipou regagne petit à petit la confiance de son entraîneur Will Steele. Avec 3 buts en 11 matchs, Lens est actuellement 8e à 7 journées de la fin.
Handball féminin, Challenge Trophy en Côte d'Ivoire. L'équipe U18 de la RCA a perdu ses 2 premiers matchs.
D'abord contre la Côte d'Ivoire sur un score de 34-41, puis contre les Black Stars du Ghana, 16-23. Aujourd'hui à 14h, la RCA affronte le Bénin, puis à 20h, elle se mesure de nouveau à la Côte d'Ivoire.
Voilà tout pour ce journal en français, préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Ne quittez pas, car la version Sango, c'est tout de suite.